Messieurs, dames, il est 18h. Bonsoir. Bienvenue au journal en français présenté par Diallo Maria Makenda. Lundi 4 mai 2020, voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Toutes les régions du Niger désormais concernées par le Covid-19. Au total, 750 personnes ont été testées positives au Covid-19 à la date du 3 mai 2020, selon le ministère de la Santé publique, détaille dans ce journal. À l'occasion de la célébration hier 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la Maison de la presse du Niger s'est félicitée du nouveau rang qu'occupe le Niger dans le dernier classement RSF. Vous entendrez le président du conseil d'administration de la Maison de la presse. Les sanctions qu'encourent les personnes qui résistent à l'exécution d'une décision de justice au Niger, on en parle dans la partie magazine avec la magistrate Goji Maimouna Gazibo. Désormais, toutes les régions du Niger sont concernées par le Covid-19 avec les nouveaux cas recensés le 1er mai à Agadez et Diffa. Selon un communiqué du ministère de la Santé publique, 750 personnes ont été testées positives au Covid-19 à la date du 3 mai 2020. Les détails avec Railatou Soumana.
Le ministère nigérien de la Santé, dans un communiqué en date du 3 mai, a annoncé 14 nouveaux cas positifs au Covid-19 enregistrés, ce qui porte à 750 sur le plan national le nombre total de patients infectés au Covid-19 sur 3063 personnes testées depuis le 19 mars 2020. Actuellement, tout le pays est concerné par la pandémie du nouveau coronavirus, puisque les régions d'Agadez et d'Ifa, qui étaient jusqu'alors épargnées, ont enregistré leur premier cas le 1er mai dernier. À la date d'hier, selon les données publiées par le ministère de la Santé, on recense 12 cas à Dosso, 3 à Maradi, 12 à Tawa, 5 à Tillabéri, 37 à Zender, 2 à Diffa, 4 à Agadez et 675 à Niamey qui reste l'épicentre de la maladie. Parmi les 750 cas, 36 personnes sont décédées, 196 sont en cours de traitement et 518 sorties guéries, ont précisé les autorités sanitaires du Niger.
Les associations féminines apportent leur soutien à la lutte contre la propagation du COVID-19. Dispositifs de lavage des mains, bavettes et savons ont été distribués aux femmes et enfants de la rue, selon la présidente de la CONGAFEN, coordination des ONG et associations féminines nigériennes, Kako Fatima, la présidente de la CONGAFEN.
Nous avons fourni beaucoup d'efforts en mettant un dispositif approprié pour pallier à la lutte contre cette pandémie. Les dispositifs composés des kits, les seaux remplis d'eau, du savon, soit eau de javel et des bavettes au niveau de nos structures fêtières. En dehors de ça, nous avons lancé un vibrant appel à l'endroit de nos antennes régionales pour pouvoir aussi mettre les mêmes dispositifs au niveau de leurs structures. Et le deuxième passage de la CONGAFEN, c'est de faire des sensibilisations au niveau des médias et au niveau de la population. Et nous avons aussi touché le ministère de tutelle, la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Donc elle nous a fourni des kits et des cartons de savon que nous avons distribués au niveau des femmes vulnérables, les femmes de la rue et les enfants de la rue. Donc nous l'avons intitulé « Une femme, une bavette, un savon ».
1307 orpailleurs nigériens installés au Burkina Faso sont rentrés à Niamey vendredi soir des suites de la fermeture des sites orifères pour cause de Covid-19, a indiqué le One Magaji, ministre nigérien de l'action humanitaire du Niger, dans une dépêche de l'AFP publiée vendredi. Avant de regagner leur village respectif, ces orpailleurs sont confinés 2 semaines à Seno, dans la périphérie de Niamey, où un site a été spécialement aménagé pour prévenir la propagation du coronavirus qui frappe le Niger, a déclaré Dr Idi Ilyasu Mainassara, ministre nigérien de la Santé publique à l'AFP. La Maison de la presse du Niger s'est félicitée samedi du nouveau rang du Niger cette année, publié le 20 avril dernier par RSF, 57e sur 180. Elle a toutefois appelé les autorités à aider les médias à faire face aux conséquences de la pandémie du COVID-19 à travers notamment la mise en place d'un fonds d'appui conséquent dans une déclaration rendue publique la veille du 3 mai ou Journée internationale de la presse. Le président du conseil d'administration de la Maison de la presse, Ibrahim Harouna.
C'est le lieu pour le bureau du conseil d'administration de la Maison de la presse de lancer un appel pressant au gouvernement pour la mise en place immédiate d'un plan d'appui financier conséquent aux médias pour faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur leur fonctionnement régulier. De rehausser significativement l'enveloppe du fonds d'aide à la presse. Au conseil supérieur de la communication, de revenir sur la formule d'octroi du fonds d'aide à la presse de manière directe par la révision de la loi numéro 2018-31 du 16 mai 2018 par temps composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, notamment à son article 10. D'accélérer le processus de mise en œuvre du décret portant accès au marché publicitaire de l'État et de ses démembrements. De prospecter d'autres sources de financement du fonds d'aide à la presse. Cet appel va également à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans le processus de signature de la convention collective de s'engager pour finaliser le dit processus d'ici la fin de l'année 2020.
Propos recueillis par Michel Dedji. Le Bénin a perdu 17 places au classement 2020 de la liberté de presse publié le 21 avril par Reporters sans frontières RSF. De la 96e place, le pays chute à la 113e place. Pourtant, le Bénin trottinait à la tête de ce classement dans les années antérieures. Joint au téléphone par Fadal Alou, le journaliste béninois et sociologue des médias, Joël Tchogbe revient sur quelques éléments qui expliquent cette chute.
L'institution estime que tout ce qui est publié, tout ce qui est diffusé dans la presse écrite ou dans les médias audiovisuels, qu'il y a une propension des officiels béninois à contrôler l'information depuis déjà les faits, passant par le processus de traitement, de filtrage et puis maintenant la diffusion. Il y a aujourd'hui une atteinte grave des libertés des journalistes. Je pense à Ignace Sossou qui est toujours derrière les barreaux. Je pense à M. Kazmi Pidjor qui est obligé de répondre à un procès qui dure depuis plus d'un an. Amnesty International parle par exemple de 17 journalistes et blogueurs emprisonnés ou poursuivis depuis l'entrée en vigueur du code du numérique. Le rapport également évoque la fermeture arbitraire des médias. Donc autant d'éléments qui aujourd'hui font que Reporters sans frontières a été donc obligé de déclasser le Bénin sur la base de ces indicateurs jugés quand même objectifs.
Jeudi dernier, vers 15h, un incendie s'est déclaré à Guidandaga, un village situé à 13 km d'Arlit sur la route d'Agadèze où l'on traite artisanalement de l'or. L'incendie a occasionné d'importants dégâts matériels et financiers. Des boutiques de commerçants sont parties en fumée. L'on estime à plusieurs millions de francs CFA les pertes enregistrées d'après le secrétaire général du syndicat de travailleurs de l'or, Ibrahim Mamoudou.
L'incendie s'est déclaré, selon les dires des gens, à partir du hangar d'une femme qui cuisine de la bouillie qu'elle vend. L'incendie a fait beaucoup de dégâts matériels. Le feu s'est propagé dans tous les sens. L'incendie a débuté aux environs de 14h et jusqu'à 15h, le feu faisait des ravages. Les sapeurs-pompiers ont tout fait pour circonscrire le feu. Et cela, jusqu'à 19h, ils étaient au front. La valeur du montant des dégâts est difficile à évaluer. Personnellement, j'ai un ami. Nous sommes voisins. Dans sa boutique, plus de 15 millions de francs CFA d'articles ont été consommés par le feu. Il y a également un jeune à côté de nous qui a vu trois de ses boutiques plus son véhicule consumé. Il y a tant d'autres personnes qui ont perdu leurs biens. C'est des millions et des millions qui ont été consommés par le feu à cet endroit.
Propos recueillis par Ousmane Oumarou. La région de Maradi dispose désormais d'un schéma d'aménagement foncier. Pour le président du comité technique, ce document, dont l'élaboration a duré 4 ans, est capital dans le cadre de la gestion des conflits liés au foncier. Salissou Oumarou est au micro de Mohamed Maman.
Nous avons fait une analyse pour identifier toutes les contraintes en termes d'exploitation, toutes les difficultés en termes de mise en œuvre et faire des propositions pour que l'ensemble des usagers de la région de Maradi, agriculteurs, éleveurs, citadins, communes, puissent de manière équitable profiter, utiliser dans tout ça, dans l'optique de la promotion socio-économique de notre région. L'utilité est fondamentale. Nous sommes un quart de la population du Niger. Nous vivons sur à peine un dixième du territoire national. Et la région de Maradi, essentiellement à vocation agro-pastorale. Rien que cette contrainte impose de bien planifier notre foncier, de finir avec tous ces problèmes de conflit. Et Dieu sait que c'est nombreux.
Le ministre nigérien de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, également président du parti PSD Bassira, Mohamed Ben Omar, est décédé hier après-midi à l'hôpital général de référence de Niamey. Historien de formation, âgé de 55 ans, Mohamed Ben Omar fut aussi un responsable régional du syndicat des enseignants du Niger, SNEN Adifa.
Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Je te trouve très soucieuse.
Donc tu n'as pas entendu la nouvelle?
Mais c'est quoi cette nouvelle qui t'angoisse tant?
La maladie là qui fait des ravages dans le monde entier, elle est venue chez nous.
Tu parles de coronavirus?
Mais oui.
C'est vrai, la maladie, elle est bel et bien arrivée chez nous. Mais tu ignores qu'on peut bien se prévenir?
C'est une bonne nouvelle. En faisant comment?
Eh oui, les spécialistes de la santé conseillent de vous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec un gel hydroalcoolique. Éternuez ou toussez dans les creux de votre coude, puis lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Il faut garder au moins un mètre de distance entre vous et les autres personnes. Évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche. Évitez tout contact direct avec les animaux vivants. Et si cela est impossible, lavez-vous les mains après le contact. Il faut bien cuire les aliments avant de les manger. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. Il faut éviter les déplacements non essentiels et éviter aussi tout regroupement.
Tout? Et le mariage de ma fille?
Eh ma chérie, pense à ta santé et à celle de ta famille.
Je te remercie beaucoup pour cette nouvelle que je vais d'ailleurs partager avec toutes les voisines.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
La partie magazine de ce journal à présent, les personnes qui résistent à l'exécution d'une décision de justice au Niger peuvent être condamnées de 3 à 2 ans de prison et seront condamnées à payer une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA à l'État si la résistance a été commise sous menace, notamment en ayant recours à une arme. La peine sera plus lourde. Les explications de la magistrate Gojime Mounagazibou, interrogée par Balkissa Amidou.
Toute personne qui ose résister à une décision de justice sera interpellée, punie et condamnée conformément au code pénal en vigueur au Niger, déclare Mme Gojime Mounagazibou, magistrate.
La résistance à l'exécution d'une décision de justice est prévue par la loi numéro 2325 du 13 juin 2003. Par exemple, vous escroquez quelqu'un, le juge tranche entre vous, vous êtes condamné à lui rembourser telle somme. L'huissier de justice essaye de faire des saisies de vos biens pour mettre la personne que vous avez escroquée dans ses droits, vous refusez, vous allez être poursuivi, jugé et jeté en prison. Lorsque vous avez une décision d'expropriation, par exemple, c'est votre maison, vous voulez faire sortir quelqu'un. S'il refuse, vous n'avez pas besoin de vous bagarrer, retournez voir le juge. Toutes les fois où la justice rend une décision, qui que vous soyez, policier, magistrat, simple citoyen, député, quiconque, refuse l'exécution d'une décision d'un juge sera poursuivi et condamné.
Comment agir lorsqu'on se trouve en face d'une personne qui résiste à l'exécution d'une décision de justice?
À partir du moment où un juge tranche et dit voilà ce qu'il faut faire, vous avez votre papier de justice en main, toute personne qui va essayer de s'interposer et d'empêcher l'exécution de la décision, amène simplement le papier à la gendarmerie et à la police et la personne va être interpellée et poursuivie.
Quelles sont les sanctions réservées aux auteurs de cette infraction?
Vous êtes en contentieux avec votre époux. La garde d'enfant vous a été attribuée. Votre époux estime que parce que vous êtes une femme, ne vous laisse pas l'enfant. Retournez devant le juge, à la police ou à la gendarmerie, avec la décision du juge qui dit que la garde d'enfant vous est confiée. Sur cette base, votre ex-époux peut être poursuivi et condamné de 3 mois à 2 ans de prison et il sera condamné à verser une amende de 10 000 à 100 000 francs à l'État. Si jamais la résistance a été commise, en tout cas sous menace, la personne a refusé l'exécution de la décision en ayant recours à des armes, il va être emprisonné de 6 mois à 3 ans et payer une amende de 10 000 à 200 000 à l'État. Si la personne a usé de la violence physique et morale, l'emprisonnement sera de 1 à 5 ans et l'amende de 20 000 à 200 000.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.